Le Dvar Malchut sur la Parashat Titro contient des sichot qui sont liées l'une avec l'autre. La première, dans la première sicha, le Rabbi va expliquer la raison pour laquelle les commandements sont dits deux fois dans la Torah. Une première fois, la Parashat Titro, une deuxième fois, la Parashat Vaetranan. En fait, la première fois, elle fait allusion au fait que les deux premières paroles des dix commandements ont été dites par Dieu lui-même. Et comme le peuple juif n'avait pas la capacité de recevoir la parole de Dieu, évidemment, parce que c'est un dévoilement qui est supérieur, il est écrit que leur âme s'envolèrent. C'est-à-dire que l'âme ne pouvait pas supporter un tel dévoilement. C'est pour ça qu'elle a quitté le corps des enfants d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il est dit deux fois les dix commandements dans la Torah, puisque la deuxième fois, il fait allusion à Moshe lui-même qui les a répétés aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que Moshe, c'est celui qui va unir les sens divines avec les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, qui va faire en sorte que la parole divine qui est au-delà de tous les dévoilements, elle puisse s'intégrer de manière profonde, bepnimiut, dans le corps et dans l'âme des enfants d'Israël. La deuxième sira, et c'est celle qui va faire l'objet de toute notre attention aujourd'hui, c'est, elle a été dite, et elle est liée directement avec la rabbanite Chaya Mouchka. Alors, cette sira, elle va mettre le point sur un fait qui est vraiment très, très important, puisque on va voir dans cette sira que le dévoilement de l'essence de l'âme juive, c'est-à-dire vraiment le dévoilement des forces les plus profondes de l'âme, on peut les dévoiler, bepnimiut, encore une fois, dans le corps de manière profonde, grâce au mérite des femmes, et en particulier grâce à la rabbanite Chaya Mouchka, puisqu'elle a été éduquée par le rabbi Rayatz et son épouse, et donc elle va suivre le chemin de la chassidoute Chabad de manière exemplaire, de par sa conduite, de par ses actions, son comportement, et c'est un exemple pour toutes les femmes et toutes les filles d'Israël. Alors le titre même de cette sira, il reprend un pasouk de la parasha Vayechi, dans lequel Dieu s'adresse aux enfants d'Israël, et il dit, comme ça, « Becha yevarech Israël »« Par toi, Israël bénira »« Par toi, Becha » Alors, « Becha », les lettres « Bet » et « Chav Sofit », ça compose le chiffre 22, et c'est une allusion donc au 22 Shvat, le jour où la rabbanite a quitté ce monde, de manière physique. Et donc, cette sira, là, elle met l'accent sur le rôle des enfants d'Israël, en particulier donc des femmes, et dans quel sujet, précisément celui de faire une demeure, de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. Alors, quand on dit qu'on doit faire une demeure, on doit faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu, on apprend par le Rabbi Rayatz que la demeure, c'est aussi nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit faire de nous-mêmes une demeure pour l'essence divine. C'est ça le point qui est important. C'est le dévoilement de l'essence divine. Alors, dans la Chassidoute, on apprend que l'essence divine, en fait, ça représente le Yesh à Amiti. Alors, il y a le Yesh à Amiti, c'est-à-dire le Yesh, ça signifie l'existence. L'existence véritable. Le Yesh à Amiti. Pourquoi on parle de Yesh à Amiti et de Yesh à Nivra? Le Yesh à Nivra, ça fait référence à l'existence physique de ce monde, à l'existence de tous les êtres qui ont été créés. La création tout entière, c'est à Nivra. Le Yesh à Nivra, ça représente l'existence, la création des mondes et de tout ce qu'ils contiennent, et inclut évidemment, ça inclut l'homme lui-même. C'est un Yesh à Nivra, c'est-à-dire que il représente lui-même c'est l'existence matérielle, l'existence même spirituelle, le Yesh à Nivra. Et le Yesh à Amiti, ça représente l'existence véritable. Alors pourquoi on parle d'existence véritable? C'est parce que quand on regarde le monde, alors on voit pas la parole de Dieu qui est vie, qui maintient en vie, qui crée le monde. On voit seulement le Yesh à Nivra. C'est-à-dire qu'on voit la réalité des êtres, la réalité des mondes et de tout ce qu'ils contiennent. Mais cette parole de Dieu qui se cache dans la création, celle-là, elle représente le Yesh à Amiti. C'est-à-dire que cette force-là, la force que Dieu y possède, seul Dieu y possède de créer le monde à partir du néant, Yesh Miayin, le Yesh, ça représente le monde, et le Ayin, ça représente le néant, c'est-à-dire ce qu'on ne perçoit pas. Alors nous-mêmes, on a une conscience de nous-mêmes et des mondes. On pense que ce qu'on voit, c'est le yesh véritable. On pense que justement ce qui est devant nos yeux, ça existe véritablement. Et Dieu lui-même, qui est au-delà de notre compréhension, qu'aucune pensée ne peut appréhender, c'est le Ein. Ça représente justement ce qui nous échappe, ce qui, entre guillemets, n'existe pas devant nos yeux, ne vit pas devant nos yeux et en nous-mêmes. Mais en réalité, c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que le monde lui-même, sans la parole de Dieu, il n'existe pas. Et le Yesh Amiti, ça représente l'essence divine, l'essence de Dieu, Dieu lui-même qui va créer les mondes, justement, à partir du néant. Alors, le Yesh Amiti, donc, ça, on doit comprendre que c'est le dévoilement de l'essence divine. Ce dévoilement, il aura lieu au moment de la Géoula, au moment du dévoilement du Mashiach. On verra, à ce moment-là, la parole de Dieu qui crée et maintient en vie les mondes et tout ce qu'ils contiennent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cet écran qui nous empêche de voir le divin, de percevoir le divin, c'est cet écran qui vient du tzimtzum, c'est-à-dire de la dissimulation de la parole divine, il va disparaître. C'est-à-dire qu'on aura vraiment conscience et on va ressentir le lien qui nous unit à Dieu. On va voir même dans la création elle-même que la création, elle a un propriétaire, un balabait, que c'est Dieu lui-même qui crée les mondes à chaque instant. Pour le moment, il y a cet écran qui nous empêche de voir la parole de Dieu, mais dans le moment de la délivrance finale, on verra la parole de Dieu. Toute chair verra la parole de Dieu qui crée et maintient en vie les mondes. C'est le sujet de Shahar Ichud Vahemuna, de la Noura Zaken, dans le livre du Tanya. Et ce sujet-là, il est repris ici par le Rabbi dans le Dvar Malchut. Pour le moment, on voit très bien que l'homme est incapable de recevoir ce dévoilement de l'essence divine. Il est incapable de rester debout et avec cette conscience, en utilisant toutes les forces de son âme, en étant conscient, et en même temps recevoir ce dévoilement divin. Alors on le voit, par exemple, c'est expliqué, le Rambam, il explique que lorsqu'un prophète, il reçoit un dévoilement, alors il ne peut pas rester debout. On dit qu'il reçoit des visions dans son sommeil, ou alors quand il va recevoir un dévoilement divin, il va s'évanouir, mais lui-même, avec toute sa conscience, il ne peut pas recevoir ce dévoilement divin. Et c'est le miracle qu'il y a eu au moment de la traversée de la mer, quand il est dit que même une servante, elle a vu ce que le prophète Yéhézkiel ne pouvait voir. C'est-à-dire que même une servante, elle pouvait recevoir un dévoilement divin et malgré tout rester debout et traverser la mer. Seulement, la Mourem Tsaï, il explique dans son ouvrage Biouré à Zohar, il explique que bien que cette servante-là, elle pouvait marcher, traverser la mer et en même temps recevoir cette vision divine, on dit que son corps, il est resté vraiment en vie, c'est-à-dire qu'elle ne s'évanouissait pas, elle pouvait marcher, elle pouvait traverser la mer, mais son âme, elle connaissait à ce moment-là Bitul Memetsiout. Ça signifie quoi Bitul Memetsiout? Ça veut dire que les forces de son âme n'étaient pas en éveil à ce moment-là. Et la Mourem Tsaï explique qu'il en est de même pour Moshe. On voit que Moshe, c'est le plus grand des prophètes parce qu'il pouvait recevoir la parole divine. Donc il restait debout quand il recevait cette parole. Mais son âme, elle-même, connaissait aussi ce Bitul Bemetsiout. C'est-à-dire que vraiment, elle ne pouvait supporter de manière profonde le dévoilement divin. Et la Mourem Tsaï explique que c'est précisément le Mashiach lui-même qui pourra recevoir le dévoilement divin en restant debout, donc, mais en même temps, son âme elle-même restera debout, si on peut dire. C'est-à-dire que son âme elle-même ne connaîtra pas ce Bitul Memetsiout. Son âme elle-même restera en éveil, avec toutes les forces qu'elle possède, et en même temps recevra ce dévoilement divin. Ça, c'est véritablement le point soulevé ici par le Rabbi. C'est vraiment ça, faire une demeure pour l'essence divine. C'est-à-dire recevoir un dévoilement divin qui est supérieur, et en même temps être soi-même conscient, tout à fait conscient et tout à fait capable d'exploiter, de vivre avec les forces de son âme, avec son intellect, ses émotions, sans connaître de Bitul Bemetsiout, c'est-à-dire en étant éveillé vraiment et en possédant toutes nos forces. Un terme qui est employé par la Mourem Tsaï, c'est quand il parle des servantes qui ont traversé la mer et qui ont eu cette vision du divin. Pourquoi elles ont pu avoir cette vision? Pourquoi elles ont pu recevoir malgré tout cette vision et rester debout? C'est parce qu'une éhara du Yesh Amiti brillait en elle-même. C'est-à-dire que c'était simplement une éhara, c'est-à-dire un reflet de l'essence divine qui leur donnait la force de supporter un tel dévoilement et de continuer à marcher. Mais le point, c'est que ce n'est pas Bepnimiut, ce n'est pas de manière profonde. Et encore une fois, c'est seulement le Mashiach et la génération du Mashiach qui pourront recevoir le Yesh Amiti de manière véritable. Donc cette révélation, ce dévoilement du Yesh Amiti dans le Yesh Anivra, ça représente la fusion, l'union entre la lumière divine qui est au-delà du monde, l'essence divine, et la lumière divine qui s'habille dans le monde. Et ça, c'est précisément même la signification du nom, du prénom de la rabbanite Chaya Mouchka. Chaya Mouchka, ça signifie qu'il y a une fusion qui s'opère, l'union entre Chaya et Mouchka. Alors Chaya, ça représente la vitalité qui s'habille dans le corps, alors que Mouchka, c'est le nom d'une odeur, d'un parfum, et ça représente la lumière qui est makif, c'est-à-dire les forces qui sont makifim, qui ne s'habillent pas dans le corps, les forces qui sont liées avec l'essence de l'âme juive. Alors on voit qu'il y a deux niveaux dans l'essence. Le rabbi, il nous dit qu'il y a deux niveaux, un niveau inférieur et un niveau supérieur. Quand on parle d'un niveau inférieur, on parle du niveau de Chaya, ou le Mazal. On parle par exemple des Juifs qui vont faire qui vont vraiment faire force de Messirou Nefesh, qui vont faire un don de soi, parce que brille en eux-mêmes ce niveau de Chaya. Seulement ce niveau-là, il va élever un juif, l'âme juive, il va l'élever sans pour autant la transformer. Donc on ne peut pas parler vraiment de faire une demeure pour l'essence divine, puisque ce dévoilement-là, il est provisoire. À l'exemple même des juifs, quand ils ont entendu la parole de Dieu et que leur âme s'est envolée. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas supporter un tel dévoilement. Quand on parle maintenant d'un dévoilement de l'essence vraiment, mais le niveau supérieur de l'essence, et on parle à ce moment-là de l'essence telle qu'elle est enracinée dans l'essence divine, alors quand ce niveau-là, il va illuminer les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, il va y avoir une fusion entre l'essence divine et les forces de l'âme. Ce sujet, il est dit par le rabbi dans le Mahamar Ve'atat et Tzavé. Il parle, dans ce Mahamar, il parle justement de cette force-là. Quand l'essence de l'âme, elle illumine les forces de l'âme, alors elle fait un avec ses forces. Et ça, c'est le but recherché. C'est-à-dire qu'un juif, c'est par ses propres forces qui va parvenir à ce niveau. C'est pas quand il va recevoir une illumination, une inspiration qui est extérieure à lui-même, comme on l'a dit, quand le niveau de Chaya, il illumine les forces de son âme, mais c'est quand lui-même, il va travailler et qu'il va dévoiler l'essence de l'âme telle qu'elle est enracinée dans l'essence divine, qu'il va parvenir à faire de lui-même une demeure pour Dieu. Donc, dans le Dvar Malchut, le Rabbi, il va expliquer tous ces niveaux qui correspondent au niveau de l'âme, en nous disant que le 10 Shvat, le chiffre 10, il représente le monde. Il représente les 10 commandements qui sont liés avec ce monde matériel qui a été créé au moyen de 10 paroles. Le chiffre 10, il représente la nature telle qu'elle a été créée, la création du monde selon l'enchaînement des mondes. Donc ça signifie que le 10 Shvat, il représente la fin d'un travail qui consistait à purifier le monde et à purifier notre corps pour nous préparer au dévoilement du chiffre 11, le 11 Shvat. Donc le 11 Shvat, ça fait allusion même au Rabbi lui-même, la période qui va suivre la Hiloula du Rabbi Rayatz, et qui va vraiment exprimer le fait que le Rabbi, il va dévoiler l'essence divine aux enfants d'Israël. Mais là, on ne parle pas encore du dévoilement qui est le plus supérieur. On ne parle pas encore, comme on l'a dit, d'une fusion totale, d'une fusion parfaite. On parle d'un dévoilement, encore une fois, qui va élever le peuple le juif sans pour autant le transformer totalement. Quand est-ce qu'on parvient à cette transformation totale? C'est le 22 Shvat, donc 11 jours après le 11 Shvat, ça fait 22. Et donc ce chiffre 22, qui fait allusion, c'est le jour de la Eloula de la Rabbanite. Celui-là, ce chiffre-là, 22, il représente la perfection du chiffre 11. C'est-à-dire que c'est ça le chidouche que nous apporte le Rabbi. Il nous dit que quand est-ce qu'on parvient vraiment à faire de nous-mêmes une demeure pour l'essence divine, c'est par le mérite de la Rabbanite et c'est par le mérite des femmes. Alors le rabbi va citer le traité Brachot à la page 57b. Il est écrit là-bas que trois choses apaisent l'esprit de l'homme. Une voix mélodieuse, une belle vue et une bonne odeur. Trois choses le mettent à l'aise et lui donnent un sentiment de bien-être. Une belle maison, une belle épouse et de beaux ustensiles. Donc à la lumière de ce passage de la Guémara, le rabbi va nous enseigner que justement le rôle de la femme juive, c'est d'illuminer sa maison. Et quand elle allume les bougies de Shabbat, elle va emplir la maison non seulement d'une lumière matérielle, la lumière des bougies, mais aussi d'une lumière spirituelle, la lumière de la Kedusha. La femme a le pouvoir d'illuminer la maison, d'inonder la maison de la lumière de la Kedusha. Et c'est allusionné par le fait que le mot ner, la bougie, cette lumière-là, la lumière de la bougie, ça a pour valeur numérique 250. 250, le rabbi le décompose pas en 248 mitzvot positives, et le chiffre 2 qu'on ajoute à 248, ça fait 250. Ce chiffre 2, il représente les deux mains, nos deux mains par lesquelles on accomplit les commandements divins, mais aussi chaque main correspond à un attribut. Le premier correspond à l'amour de Dieu, et le second correspond à la crainte de Dieu. Au moyen de l'amour et de la crainte de Dieu, on parvient à accomplir les commandements divins et à faire une demeure pour l'essence divine. Comme on l'a dit, faire une demeure pour l'essence divine, jusqu'au 10 Shvat, ça consistait à purifier le monde. Donc à nous purifier nous-mêmes de manière à être un réceptacle pour recevoir le dévoilement de l'essence. Puisque comme l'Admor HaZaken le souligne tout le temps, il souligne que Dieu ne réside que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis. Le Bitoul, notre soumission, ça consiste avant tout à nous purifier. Mais on voit par la suite que le rôle de la femme, puisque la Guémara met l'accent sur le mot Nae, la beauté véritable telle qu'elle est exprimée, la signification de la beauté telle qu'elle est dite par le rabbi, c'est précisément l'union entre le matériel et le spirituel. C'est précisément l'union entre, comme on l'a dit pour l'âme, les forces makifim, les forces qui ne s'habillent pas dans le corps, vraiment ce qui sont liées avec les sens de l'âme, et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est ça précisément la signification de la beauté, et ça appartient aux femmes et aux filles d'Israël. Le rabbi ajoute qu'une femme aussi, elle ajoute à cette beauté, la beauté de la lumière des bougies, l'odeur, une bonne odeur, le parfum. Et le parfum, donc, c'est lié avec le prénom de la rabbanite, Mouchka, qui c'est lié avec l'odeur, une bonne odeur, une odeur parfumée. Le parfum, il ajoute aussi à cette beauté qui règne dans la maison. On peut ajouter à ce qui vient d'être dit que le rabbi écrit dans le Devar Malchut que la beauté matérielle découle de la beauté spirituelle. Donc on voit que le prénom de Chaya Mouchka, qui est, comme on l'a dit, vraiment représente la perfection du travail de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine, s'applique ici avec force, puisqu'on comprend que la beauté, vraiment elle-même, elle est aussi bien spirituelle que matérielle. On pourrait finir ici en rappelant un extrait du livre des mémoires. Et le rabbi Riatz écrit « Quant au brillant Maharal, le Maharal de Prague, il pouvait maintenant continuer ses études sans se soucier du fardeau que sa femme devait prendre sur ses épaules pour le faire vivre. Perle, c'est le nom de la femme du Maharal, elle-même se sentait libre de s'asseoir et d'étudier. Tous les jours, elle avait une leçon avec son mari. » Et non seulement ils étudiaient le Talmud ensemble, mais encore l'éthique et la métaphysique. Perle disait que depuis qu'elle avait atteint l'âge de 8 ans, pas un jour ne s'était écoulé qu'elle n'ait étudié au moins 5 heures. Plus tard, quand elle avait épousé le Maharal et que diverses communautés s'adressaient à lui pour leurs difficultés, c'était elle qui lui lisait les lettres et écrivait ses réponses. Elle édita et publia toutes les œuvres littéraires du Maharal. On dit qu'en 8 endroits au moins, elle trouva des erreurs dans les écrits de son mari, une citation erronée des sages ou de Rashi. Là, ce petit extrait pour vraiment illustrer un peu l'importance et le rôle de la femme de Nassi, de la femme vraiment d'un rabbi. On voit que vraiment elle est liée avec la beauté, et c'est précisément par elle, Becha Yvarech Israël, Becha, le chiffre 22, c'est par la rabbanite Chaya Mouchka, que vient la bénédiction, et que vient justement, qui nous sont donnés les moyens, vraiment de faire de ce monde et de nous-mêmes une demeure pour l'essence divine. Et c'est pour ça que le rabbi a dit dans une sira que même une femme, elle a le pouvoir de donner la volonté à son mari. C'est elle qui veut lui insuffler le désir, vraiment, la volonté profonde de dévoiler le sentiment le plus profond qui se cache dans le cœur de chaque juif et qui est lié avec l'essence même de son âme, le dévoilement de Dieu, le dévoilement du Machar, Bezrat Hashem, dès à présent, avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom, Umevorach.